Chapitre 8. C'est un brouhaha permanent. Des milliers de soldats passent ici, repassent, séjournent, arrivent et s'entassent dans un chaos indescriptible. Le centre de démobilisation est plein comme un œuf. On doit libérer les hommes par vagues de plusieurs centaines, mais personne ne sait comment s'y prendre. Les ordres vont et viennent, l'organisation ne cesse de changer. Les soldats, mécontents, harassés, se saisissent de la moindre information. Aussitôt, c'est comme une houle, ça soulève un cri, presque une menace. Des gradés dépassés traversent la foule à grands pas, répondant à la cantonade sur un ton excédé. « J'en sais pas plus que vous, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ?» À cet instant, des coups de sifflet retentissent, tout le monde tourne la tête. Le rouleau d'exaspération se déplace. C'est un type qui gueule là-bas, au fond. On entend juste « Des papiers ! Mais merde, quels papiers ?» Et une autre voix « Hein ? Comment ça, un livret militaire ?» Par réflexe, chacun tape sur sa poche de poitrine ou sur l'arrière de son pantalon. On s'interroge du regard. Ben, « Ça fait 4 heures qu'on est là, merde, à la fin !»« Bon, te plains pas, moi, ça fait 3 jours !» Un autre demande « C'est où c'est que tu m'as dit pour les brodequins ?» Mais il paraît qu'il n'y a plus que de grande taille. « Bon, alors, on fait quoi ?» Un type survolté. Pourtant, il n'est que première classe et il parle à un capitaine, comme s'il s'adressait à un employé. Il est sacrément pétard. Il répète « Hein ? On fait quoi ?» L'officier s'absorbe dans sa liste, coche des noms. Le première classe, rageur, tourne les talons en grommelant des choses à peine compréhensibles, sauf un mot « fumier ». Le capitaine fait comme s'il n'avait rien entendu. Il est rouge, sa main tremble. Mais il y a tellement de monde que, même ça est emporté dans la foule et disparaît comme de l'écume, déjà, deux types se balancent des coups de poing dans l'épaule en se disputant. « C'est ma vareuse que je te dis !» hurle le premier. « Ben merde, dit l'autre, manquerait plus que ça !» Mais il lâche aussitôt, il s'en va. Il a essayé, il recommencera. Des vols, il y en a pas mal, tous les jours. Faudrait ouvrir un bureau spécial pour ça. Un bureau par catégorie de réclamation, c'est impossible, vous imaginez. C'est ce que se disent les gars qui font la queue pour la soupe. Tiède, depuis le début. On comprend pas, le café est chaud, la soupe est froide, depuis le début. Pour le reste du temps, quand on ne fait pas la queue, soit on tente de se renseigner. « Mais le train pour Mâcon, quand même, il est bien marqué !» dit un type. « Ben oui, il est marqué, sauf qu'il n'est pas là, qu'est-ce que tu veux que je te dise à la fin ?» Hier, un train est enfin parti pour Paris. 47 wagons, de quoi transporter 1500 hommes. On en a entassé plus de 2000, fallait voir. Serrés comme des sardines, mais heureux. Il y a eu des vitres cassées, des gradés sont arrivés, qui ont parlé de déprédation. Les gars ont dû descendre. Le train a pris encore une heure de retard sur les 10 qu'il avait déjà. Finalement, il s'est ébranlé, ça gueulait partout, ceux qui partaient, ceux qui restaient. Et quand il n'y a plus eu que des panaches de fumée sur la campagne toute plate, on s'est avancé dans les rangs, on a cherché un regard qu'on connaissait pour glaner un renseignement, reposer les mêmes questions, quelle unité est démobilisée, dans quel ordre se font les choses, bon Dieu, est-ce qu'il n'y a pas quelqu'un qui commande ? Si, mais commander quoi ? Personne n'y comprend rien. On attend. La moitié des soldats ont dormi par terre dans leur capote. On avait davantage de place dans la tranchée. Bon, ça n'est pas comparable. Ici, il n'y a pas les rats. On a quand même les poux, parce que ce sont des bêtes qu'on transporte sur soi. On peut même pas écrire à la famille quand c'est qu'on sera à la maison. Râle un soldat, un vieux, buriné, le regard éteint, il se plaint. On sent le fatalisme. On pensait qu'un train supplémentaire allait arriver, et il est arrivé. Mais au lieu d'emporter les 320 gars qui attendaient, il en a ramené 200 de plus, des nouveaux. On ne sait plus où les mettre. L'aumônier essaye de traverser les files de soldats qui s'étirent. Il est bousculé, sa tasse de café se vide à moitié par terre. Un petit gars lui fait un clin d'œil. « Dites donc, il n'est pas gentil avec vous, le bon Dieu !» Il se marre. L'aumônier serre les mâchoires et tâche de dégoter une place sur un banc. Il paraît qu'on va en rapporter d'autres, des bancs. Mais quand ça, personne ne sait. En attendant, ceux qui sont là sont pris d'assaut. L'aumônier trouve une place parce que les gars se serrent. Bon, ça serait un officier, il irait se faire voir, mais un curé. La foule, ça n'était pas bon pour l'anxiété d'Albert. Il était crispé 24 heures sur 24. On ne pouvait pas seulement se poser quelque part sans être bousculé par les uns ou par les autres. Et le chahut, les cris le perturbaient terriblement, lui rentraient dans la tête, il n'arrêtait pas de sursauter et passait la moitié de son temps à se retourner. Parfois, comme si des écoutilles se fermaient, le bruit de la foule cessait soudainement autour de lui, remplacé par des échos sourds, étouffés, comme des explosions d'obus entendues de dessous la terre. C'était encore plus fréquent depuis qu'il avait aperçu le capitaine Pradel, là-bas, au fond de la halle. Campé sur ses jambes écartées, sa position favorite, les mains dans le dos, il observait ce spectacle lamentable avec la sévérité d'un homme que la médiocrité des autres navre mais n'atteint pas. En repensant à lui, Albert leva les yeux, fixa la foule des soldats autour de lui, saisi d'une angoisse. Il ne voulait pas en parler à Édouard du capitaine Pradel, mais il avait l'impression qu'il était partout, comme un mauvais esprit, qu'il planait toujours quelque part à proximité, prêt à fondre sur lui. Tu avais raison, ce qu'on peut être égoïste tout de même, avoir comme ma lettre est décousue.
Albert ?
C'est que, vois-tu, nos têtes à tous sont aussi bien embrouillées quand on a...
Albert, merde, quoi ?
Le caporal-chef, furieux, le saisit par l'épaule, le secoua en lui désignant la pancarte. Albert replia précipitamment ses feuilles éparses et courut en rassemblant ses affaires tant bien que mal, serrant ses papiers contre lui à travers la foule des soldats qui faisaient le pied de grue en file indienne.
« Tu ressembles pas trop à la photo !»
Le gendarme avait la quarantaine satisfaite, ventre rond, presque gras, à se demander comment il était parvenu à se nourrir ainsi pendant 4 ans, et suspicieuse. Le genre d'homme qui a le sens du devoir, c'est un truc saisonnier, le sens du devoir. Par exemple, depuis l'armistice, c'était une denrée beaucoup plus fréquente qu'avant. Par ailleurs, Albert était une proie facile, plus très bagarreur, envie de rentrer, envie de dormir. Albert Maillard, reprit le gendarme en détaillant le livret militaire. Pour un peu, il l'aurait regardé par transparence. Clairement, il doutait, observant le visage d'Albert et se confortant dans son diagnostic, ne ressemble pas à la photo. En même temps, la photo remontait à 4 ans, fanée, usée. Justement, se dit Albert, pour un type fané et usé comme moi, ça tombe pas si mal. Mais le préposé, lui, ne le considérait pas de cet œil-là. Il y avait tant de tricheurs, d'arnaqueurs et d'escrocs par les temps actuels. Il hochait la tête, regardait tour à tour le document et le visage d'Albert. « C'est une photo d'avant, » risqua Albert. Autant le visage du soldat apparaissait douteux au fonctionnaire, autant « avant » lui semblait un concept clair. Pour tout le monde, « avant » était une idée absolument cristalline. N'empêche. «
Bah oui !» reprit-il, « Albert Maillard, je veux bien, moi, mais enfin, des Maillards, j'en ai 2 maintenant. »
Des Albert Maillard, vous en avez 2 ?
Non, des A Maillard, et A, ça peut être pour Albert. »
Le gendarme était assez fier de cette déduction qui soulignait sa subtilité. « Oui, dit Albert, mais pour Alfred aussi, ou pour André, pour Alcide. » Le gendarme le regarda par en dessous, et plissa les yeux comme un gros chat.
« Et pourquoi que ça serait pas pour Albert ?»
Bah, évidemment, à cette solide hypothèse, Albert n'avait rien à opposer.
« Et il est où, l'autre Maillard ?» demanda-t-il. « Bah, c'est ça le problème, il est parti avant-hier.
Vous l'avez laissé partir sans avoir son prénom ?» Le gendarme ferma les yeux, il était pénible d'avoir expliqué des choses aussi simples.
« On avait son prénom ?» On l'a plus, les dossiers sont remontés hier à Paris. Pour ceux qui sont partis, j'ai juste ce registre, ici. »
Il pointa un doigt péremptoire sur la colonne des patronymes.
« C'est A. Maillard.
Si on retrouve pas les papiers, je continue la guerre tout seul ?»«
Ça serait que 2 mois, » reprit le gendarme. « Je te laisserai passer. Mais c'est que je me fais engueuler, moi, tu comprends. Si j'enregistre un type qui est pas le bon, qui c'est qui prend ? C'est mes zigs. T'imagines pas le nombre de resquilleurs qu'on voit. En ce moment, c'est fou ce que vous pouvez paumer vos papiers. Si on comptait tous ceux qui ont perdu leur carnet de pécule pour toucher deux fois l'indemnité...
Et c'est si grave que ça ? Demanda Albert.
Le gendarme fronça les sourcils, comme s'il comprenait subitement qu'il avait devant lui un bolchevique.
Depuis la photo, j'ai été blessé dans la Somme, expliqua Albert pour calmer le jeu.
C'est peut-être à cause de ça, pour la photo.
Le gendarme, ravi d'avoir à exercer sa sagacité, détailla tour à tour la photo et le visage, passant de l'une à l'autre de plus en plus vite, à la fin de quoi il décréta « C'est possible ».
On sentait pourtant que le comte n'y était pas.
Derrière, les autres soldats commençaient à s'impatienter, on perçut des éclats encore timides, mais ça n'allait pas tarder à chahuter.
« Un problème ?»
Cette voix cloua Albert sur place, tant elle dégageait d'ondes négatives, comme une bouffée de venin. Dans son champ visuel, il ne distingua d'abord qu'un ceinturon. Il sentit qu'il se mettait à trembler. « Ne pisse pas dans ton froc. »«
Bah, c'est que... » dit le gendarme, entendant le livret militaire.
Albert leva enfin la tête et reçut, comme un coup de poignard, le regard clair et corrosif du capitaine d'Aulnay Pradel. Toujours aussi brun, avec tous ses poils et d'une présence folle. Pradel saisit le livret sans cesser de fixer Albert.
« Des un maillard, j'en ai deux !» continua le gendarme. « Et moi, la photo me fait hésiter !»
Pradel ne regardait toujours pas le document. Albert baissa les yeux vers ses chaussures. C'était plus fort que lui. Il ne pouvait pas soutenir ce regard-là. Encore 5 minutes et une goutte allait perler à l'extrémité de son pif.
« Celui-là, je le connais !» lâcha Pradel.
« Je le connais parfaitement !»
« Ah bon ?» fit le gendarme.
« C'est bien Albert Maillard. » Le débit de Pradel était terriblement lent, comme s'il mettait tout son poids sur chaque phonème. Aucun doute là-dessus. L'arrivée du capitaine avait calmé tout le monde, instantanément. Les soldats s'étaient tus, comme s'ils avaient été surpris par une éclipse. Il dégageait un truc, ce Pradel, qui vous glaçait, quelque chose de Javert. Il devait y avoir des gardiens avec cette tête-là, dans les enfers.
J'ai hésité avant de t'en parler, mais je me décide quand même. J'ai eu des nouvelles de A.P.
Je te le donne en 1000, il a été promu capitaine. Comme quoi, à la guerre, vaut mieux être une crapule qu'un soldat.
Et il est ici, il commande un service au centre de démobilisation.
L'effet que ça m'a fait de le retrouver... T'imagines pas mes rêves depuis que je l'ai croisé de nouveau.
N'est-ce pas qu'on se connaît, soldat Albert Maillard ?
Albert releva enfin les yeux.
Oui, mon capitaine, on se connaît.
Le gendarme ne dit plus rien, regarda ses tampons et ses registres d'un air absorbé. L'atmosphère était saturée de vibrations malsaines.
Je connais notamment votre héroïsme, « Soldat Albert Maillard !»
articula Pradel avec un demi-sourire condescendant. Il le détailla des pieds à la tête, remonta au visage, il prenait tout son temps. Albert avait l'impression que le sol se dérobait lentement sous ses pieds, comme s'il était debout sur des sables mouvants, et c'est ce qui le fit réagir, un réflexe de panique.
« C'est l'avantage de la guerre !»
balbutia-t-il. Il y eut un grand silence autour d'eux. Pradel pencha la tête sur une question silencieuse.
Chacun y montre sa vraie nature, compléta difficilement Albert.
Un demi-sourire s'esquissa sur les lèvres de Pradel. En certaines circonstances, elle n'était qu'un fil horizontal qui s'étirait simplement, comme une mécanique. Albert comprit son malaise. Le capitaine Pradel ne sillait pas, jamais, ce qui rendait son regard fixe, mordant. « Ça n'a pas de larmes, ces animaux-là, pensa-t-il. » Il avala sa salive et baissa les yeux.
« Dans mes rêves, parfois je le tue, je l'embroche à la baïonnette. Parfois nous sommes ensemble, toi et moi, et il passe un sale quart d'heure, je te prie de le croire. Parfois aussi,
Je me retrouve devant le conseil de guerre. Je finis face au peloton. Normalement, je devrais refuser le bandeau sur les yeux et être courageux, quoi. Au contraire, je dis d'accord, parce que le seul tireur, c'est lui. Et il me sourit en visant, l'air vraiment content de lui. Quand je suis réveillé, je rêve encore que je le tue. Mais c'est surtout à toi que je pense, hein, mon pauvre camarade, quand le nom de ce salaud me revient à l'esprit. Je devrais pas te dire ces choses-là, je sais bien. Le gendarme se racla la gorge. « Bon, si vous le connaissez, mon capitaine... » Le brouhaha reprit, d'abord timidement, puis plus fort. Albert leva les yeux. Pradel avait disparu. Le gendarme était déjà penché sur son registre. Depuis le matin, tout le monde s'était hurlé dessus dans un vacarme continuel. Le centre de démobilisation n'avait cessé de résonner de cris, de vociférations, et subitement, en fin de journée, le découragement sembla saisir ce grand corps à l'agonie. Les guichets fermèrent, les officiers allèrent dîner, les sous-officiers épuisés soufflaient par habitude sur leur café pourtant tiède, assis sur des sacs. Les tables de l'administration étaient débarrassées. Jusqu'au lendemain. Les trains qui n'étaient pas là n'arriveraient plus. Ce ne serait pas encore pour aujourd'hui. Demain, peut-être. En même temps, attendre, c'est ce qu'on fait depuis la fin de la guerre. Ici, c'est un peu comme dans les tranchées, finalement. On a un ennemi qu'on ne voit jamais, mais qui pèse sur nous de tout son poids. On est dépendant de lui. L'ennemi, la guerre, l'administration, l'armée, tout ça, c'est un peu pareil. Des trucs auxquels personne ne comprend rien et que personne ne sait arrêter.